signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. En société et à proprement parler en elle-même, la liberté est immorale, a écrit Camus. On fête ce mois-ci le 60e anniversaire de sa mort, hommages et émissions se multiplient, l'auteur de L'étranger apparaît comme un passage obligé et même sacralisé des discours politiques sitôt que l'on parle de morale. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui prédisposait l'auteur d'une telle phrase à devenir ainsi une telle référence? Une vie brève, une œuvre inachevée, une postérité longtemps plus ou moins marginale. Après tout, même si l'on a vite admis que Camus avait raison sur à peu près tout, peut-être même justement à cause de ça, c'est ainsi qu'on l'a longtemps considéré, avec une sorte de condescendance. Ce qu'il disait et écrivait était trop simple, l'histoire avec un grand H c'était forcément plus compliqué, pour reprendre la phrase célèbre, mieux valait avoir tort avec le génie Sartre que raison avec ce pied noir d'Algérie venu des basses classes, qui passait pour arriviste et dont les combats semblaient trop naïfs ou trop évidents pour mériter une discussion sérieuse. Mais aujourd'hui pourtant, tout se passe comme si dans la France d'après Charlie Hebdo et des réseaux sociaux, cette fragilité de Camus faisait miroir de la nôtre. C'est ce que l'on va essayer de voir aujourd'hui avec Agnès Piquel. Agnès Piquel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'œuvre d'Albert Camus, membre de la Société des études camusiennes. Vous avez dirigé l'édition de la correspondance de Camus dans la collection La Pléiade chez Gallimard et aussi le cahier de Lerne consacré à Camus. Et Vincent Duclair, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien des sociétés contemporaines, biographe du capitaine Dreyfus, de Jaurès aussi. Vous dirigez le centre Raymond Aron. Vous êtes spécialisé également dans l'étude des génocides et des crimes de guerre. Vous présidez, je crois, la commission chargée d'étudier les responsabilités françaises dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Et vous publiez en ce moment Camus des pays de liberté. Ce dont on va parler aujourd'hui, justement. Et donc, je vais commencer par vous, Vincent Duclair. Vous écrivez Camus représentait un possible, la présence de la tension morale dans un monde dénué de sens. L'expérience camusienne nous aide à devenir ce que nous sommes. Vous pouvez expliquer un peu?
Le grand intérêt d'Albert Camus, et moi-même, je le vis en fait comme chercheur ou simplement comme individu, c'est-à-dire que Camus, a accompagné ma vie, continue de l'accompagner, ma vie personnelle, ma vie intellectuelle. Et ce qui est intéressant avec Camus, c'est ses engagements très intéressants, notamment en lien avec sa création littéraire et ses engagements politiques, rappellent que rien n'est décidé d'avance, qu'il est possible, au fond, de s'opposer à ce qu'on considère comme, une sorte d'avancée inexorable de l'histoire, ce qu'on appelle le matérialisme historique, et que, en fait, Camus, toute sa vie, a essayé de maintenir, effectivement, des possibles, une utopie qui n'est pas une utopie révolutionnaire, c'est une utopie fondée sur la réflexion, sur les idées, sur le fait que il est possible de donner encore une part aux individus. Et de ce point de vue-là, finalement, cette réflexion, politique, elle a un sens moral, qui concerne les sociétés, les responsables politiques et aussi chacun d'entre nous.
Agnès Piquel.
Je suis tout à fait d'accord. Camus parle d'utopie modeste. Il faut de l'utopie, mais une utopie modeste, c'est-à-dire toujours marquée par la mesure. Ce qui est mortifère, c'est la démesure. Et tout l'Occident, pour lui et l'histoire, tombe dans la démesure. La morale ne peut exister s'il n'y a pas une réflexion et une action pour la mesure.
C'est-à-dire que Camus ne s'inscrit pas dans la philosophie du concept, pas exactement dans la philosophie. Il laisse à l'écart, la philosophie laisse à l'écart un pan immense de la compréhension de l'homme, en méconnaissant sa dimension sensible, vous écrivez Vincent Duclair. Et il y a chez Camus une tension, une sorte d'esthétique de la tension qui passe par la littérature plus que par la philosophie.
Oui, alors ce qui est très intéressant avec Albert Camus, c'est que Albert Camus nous rappelle que finalement la pensée politique et le progrès de la pensée politique, la capacité, de la réflexion à se saisir, des grands enjeux contemporains, pour schématiser, ne relève pas uniquement des philosophes ou des historiens, mais qu'il faut effectivement entendre les artistes, les écrivains, les peintres. Donc Camus était très proche des peintres d'Alger et de France. Et finalement, cette réflexion sur la part des artistes dans la pensée politique, elle nous renvoie aussi à ce qu'est la création et son importance. Et dans L'Homme révolté, bon, L'Homme révolté n'a pas une très bonne réputation à la fois.
On va en parler.
Mais ce qui est intéressant dans L'Homme révolté, et moi j'ai relu justement, bien sûr, pour le travail que j'ai mené, L'Homme révolté, eh bien, il y a des passages très intéressants sur la création, sur Marcel Proust en particulier, et au fond, c'est la création qui aide à comprendre la révolte de la liberté contre les révolutions qui basculent dans les tyrannies.
Alors, si je peux me permettre, pour aller dans votre sens, dès 1935, il a donc 22 ans, Camus écrit dans ses carnets « On ne pense que par image, si tu veux être philosophe, écris des romans ». Mmh. Autrement dit, c'est très 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 ancien, c'est bien avant L'Homme révolté que pour lui la pensée passe par l'écriture romanesque, par le récit, par la mise en scène de personnages, donc aussi par le théâtre.
Si je peux ajouter un instant, parce que votre question sur la philosophie du concept, évidemment le sensible est très important. Très importante, c'est vraiment d'une certaine manière, ce qui a structuré les débats de la philosophie française entre une philosophie du sensible qui serait celle plutôt de Bergson et une philosophie du concept héritée de Kant. Et enfin, l'intérêt de Camus, notamment avec son écriture littéraire, c'est qu'il arrive à nous accompagner par le sensible pour nous faire prendre conscience des grands enjeux effectivement politiques. Et La Peste, de ce point de vue-là, est fantastique, parce que La Peste est un roman où on se sent effectivement, une chronique, où on se sent extrêmement très proche des héros qui combattent la peste. Et on comprend effectivement combien effectivement La Peste représente, je veux dire, ces totalitarismes qui demeurent. Et on le comprend aussi à travers des détails de leur lutte. Moi, j'aime beaucoup dans La Peste le moment où les deux protagonistes décident de prendre un bain pour se ressourcer et pour retrouver de la force, du courage dans le combat. Et c'est un passage fantastique.
Mmh. Voilà, alors cette philosophie par la fiction, par le roman, c'est aussi nécessairement une philosophie par le parcours individuel, personnel, y compris le parcours de l'auteur. On va pas raconter sa vie ici. Je rappelle simplement que ce que tout le monde sait, Camus est né pauvre, orphelin de père dans un quartier ouvrier en Algérie, que ni sa mère ni sa grand-mère ne savent ni lire ni écrire, qu'il est contraint de travailler chaque été adolescent, et ses origines vont lui donner une espèce d'indépendance sociale. Elles vont aussi cette indépendance qui est balancée avec une espèce de fragilité. Et sa honte de la pauvreté quand il entre au lycée est intéressante. Il y a une sorte de sentiment d'étrangeté. Il dit plusieurs fois « j'avais honte de ma pauvreté et de ma famille. Auparavant, tout le monde était comme moi. La pauvreté me paraissait l'air même de ce monde. Au lycée, j'ai connu la comparaison. » Et dans le premier homme, il développe ça de manière intéressante. Il écrit « au lieu de la joie du succès au moment d'entrer au lycée, une immense peine d'enfant lui tordait le cœur. » Il parle de lui à la troisième personne, comme s'il savait d'avance qu'il venait par ce succès d'être arraché au monde innocent et chaleureux des pauvres, monde refermé sur lui-même comme une île dans la société, mais où la misère tient lieu de famille et de solidarité, pour être jeté dans un monde inconnu qui n'était plus le sien, et où il devrait désormais apprendre, comprendre sans aide, devenir un homme enfin, grandir et s'élever seul au prix le plus cher. Alors je cite ce passage parce qu'il y a beaucoup de choses, ça indique la suite d'une certaine manière, ça indique la solitude. Ça indique aussi la nécessité de s'arracher à une forme d'infantilisation qu'engendre toujours la pauvreté, et cette nécessité de se tenir debout seul comme un homme adulte. Est-ce que c'est pas ça qui va l'aider aussi à échapper aux idéologies, aux discours collectifs par la suite ?
Alors, effectivement, vous avez raison, mais il faut bien voir que le premier homme est un roman autobiographique, et le résultat d'une immense réflexion sur son propre parcours. Vous avez cité, vous avez eu raison, la honte quand il entre au lycée, mais dans le premier homme, il dit « et la honte d'avoir honte ». C'est-à-dire qu'il a retravaillé sur cette honte, il l'a mise à sa place, de la même manière qu'il a mis à sa place tout ce que la pauvreté lui avait apporté de positif, alors que dans les tout premiers écrits, ça n'était pas si positif que cela. De la même manière qu'il a retravaillé toute l'image de la mère. C'est-à-dire qu'il y a, par rapport à se donner du vécu que vous avez évoqué, il y a, ça n'est pas simplement un travail de la fiction, non, c'est un travail de lui-même sur sa propre, l'éveil de sa propre sensibilité. Et du coup, je crois qu'effectivement, il perçoit mieux ce que tout ça lui a permis comme liberté intérieure. Et là, il faut toujours revenir à un texte capital de 1958, qui est la préface à L'Envers et l'Endroit. L'Envers et l'Endroit est sa première œuvre en 37, mais il accepte que ce soit republié en 58, avec un texte qui est véritablement, il fait le point en 58, il a donc 45 ans, en tant qu'homme, en tant qu'artiste, en tant que penseur. Et ce texte dit très exactement comment tout ce qu'il est s'enracine dans l'enfant qu'il a été.
Oui, façon du clair.
Oui, la réflexion sur sa condition pauvre a été une arme finalement incontestable pour Camus pour être dans la vérité. Je veux dire, c'est vrai que ce qui est assez frappant chez Camus, c'est finalement le courage qu'il assume de dire la vérité, de s'opposer notamment au milieu intellectuel parisien. Il a des propos très durs, hein, donc contre finalement ce système, je veux dire, qui fabrique les réputations ou qui répudie. Et lui-même a compris qu'il devait tracer son chemin avec quelques amis. Hein, il est extrêmement fidèle en amitié. Les correspondances qui sont précisément éditées par Agnès Piquel et par tous les spécialistes montrent, je veux dire, cette détermination à conserver les valeurs de l'amitié, à les cultiver et donc à se renforcer face à cette dureté du monde, dureté à la fois, je veux dire, du réel, mais dureté aussi des relations au sein des milieux intellectuels. Et moi, ce qui m'a frappé avec Camus, c'est finalement le fait que la solitude, le doute, il en fait d'une certaine manière au fond, une sorte d'héroïsme, hein, et qui lui permet de conduire effectivement sa voix, d'être présent là où il faut, de dire font ce qui doit être dit sans se soucier du qu'en dira-t-on ou des réputations.
Oui, alors ça commence très tôt, hein, la nécessité de l'indépendance, cette capacité à transformer la fragilité en force, hein, puisque c'est au départ il veut être sportif, hein, il veut être football, et c'est la tuberculose.
Gardien de but,
absolument, et c'est la tuberculose qui va faire de lui en fait un écrivain. Enfin, c'est un des éléments en tout cas, et donc toujours cette même chose, la fragilité transformée en force. Et dès l'Algérie, il va adopter une position. Il a la position d'être dans aucun camp. Il y a le reportage sur les Kabyles, sur la misère en Kabylie. Il y a le désir de militer pour une Algérie pluriethnique, pluriconfessionnelle, de créer une œuvre dans le sens d'une culture méditerranéenne qui pense être la tâche des intellectuels algériens. Tout ça va contre les partis tels qu'ils sont institués, y compris le Parti communiste algérien dans les années 30. Et puis cette dimension solitaire va exploser pendant et surtout après la guerre.
Alors, si je peux me permettre de répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Leclerc, vous parliez d'héroïsme, je crois qu'il n'aurait pas aimé ce mot. Il cherche simplement, ce qu'il dira, c'est comment être un homme. Il dira aussi dans la pièce, il fera dire à son principal personnage comment être un saint sans Dieu. Et puis c'est quelqu'un qui a des convictions, mais quelqu'un qui doute aussi de lui-même, qui doute et qui remet sans cesse en question. C'est très clair, par exemple, dans la préface des chroniques algériennes, où il dit « je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler de l'Algérie tellement je l'ai dans les tripes ». Mais il faut quand même que j'en parle et que je dise ce que j'ai à en dire. Il admet vraiment, et il demande conseil, il admet de pouvoir se tromper. Et je trouve que c'est cette conscience, justement, de la fragilité qui le rend aussi attachant dans les convictions extrêmement profondes qu'il développe. Alors, si je peux revenir à cette liberté, dès les années 30, vous avez raison. En même temps, il cherche, à travers ce très court engagement, c'est la seule fois qu'il prend la carte d'un parti au Parti communiste algérien entre 35 et 37, c'est bien qu'il cherche un enracinement, qu'il cherche des contacts. Il veut être en contact avec les Arabes. Il est dans le Parti communiste algérien pour la propagande en milieu arabe. Il cherche cet unique parti où il y a à la fois des Européens et ce qu'on appelle à l'époque les indigènes. Donc, il est expulsé, enfin il est exclu du Parti communiste algérien, mais les solidarités, il les a cherchées. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas tout de suite mis en position de franc-tireur.
Il n'y a pas de position misanthropique.
Voilà. Après, misanthrope, il dira, il n'y a qu'une position, c'est celle du franc-tireur. Oui. Mais c'est après, quand il aura vu aussi, après l'expérience extrêmement profonde de solidarité dans la résistance, qu'il verra ce que devient la France de l'après-guerre, et que là, il dira, il n'y a que la position du franc-tireur, en particulier quand il aura refusé de rallier De Gaulle. Et ce qui fera des ruptures très, très nettes avant les grandes ruptures aussi des années 50.
Vincent Duclerc.
Oui, bon, sur l'héroïsme, j'entends bien que peut-être Albert Camus n'aurait pas employé ce terme, mais moi je m'autorise à l'employer parce que je crois qu'il faut effectivement essayer de réfléchir à, je veux dire, aussi à l'actualité d'Albert Camus et à penser aussi, parce que c'est pas effectivement une pause, hein, ce terme, c'est fondamentalement, si l'on étudie les engagements d'Albert Camus dans le moment où il combat, eh bien, on voit la série d'erreurs, en particulier, ou de conformisme des intellectuels, notamment d'intellectuels de gauche, et la manière dont lui-même, appartenant à la gauche, donc il n'appartient à aucun camp, mais il appartient quand même à cette gauche libertaire, et il y a eu beaucoup de travaux qui ont été menés sur, notamment, un très beau recueil des écrits libertaires d'Albert Camus. Donc, Albert Camus appartient à la gauche, malgré lui, malgré elle, il l'a souvent dit. Donc, il appartient à la gauche, mais précisément parce qu'il appartient à la gauche, il est capable de porter la contradiction, la critique, jusque dans les engagements les plus présentés comme les plus authentiquement de gauche. Et c'est pour ça, effectivement, que je crois qu'il y a là une valeur qu'il faut conserver d'Albert Camus, c'est de faire prévaloir, en fait, cette vérité face à l'histoire et ne pas accepter, au fond, des injonctions collectives trop stériles.
France Culture, signe des temps, Marc Wetzmann.
Sentence me to 20 years of boredom. Trying to change the system from within. I'm coming now, I'm coming to reward them. First we take Manhattan, then we take Berlin.
Alors oui, on va revenir sur la position du franc-tireur à laquelle cette chanson nous invite aussi, qui s'est structurée vraiment chez Camus, comme vous le disiez, Agnès Piquel, à travers l'expérience de la guerre. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une génération, parce que j'ai trouvé, Vincent Duclerc, dans votre livre, cette citation de René Char, une allocution lui à la radio en le 15 août 46, à propos de ses camarades tombés dans la résistance, où il dit « J'aimerais que ceux que les circonstances ont empêchés d'être à vos côtés en refassent furtivement par le cœur et la pensée le trajet. Un trajet dont on ne savait pas alors tant les mots étaient compromis, s'il était vertigineux ou pitoyable. » C'est intéressant cette idée que les mots étaient compromis et que donc il y a une génération qui doit accorder une attention particulière à la précision des mots, et ça va être vraiment le travail de Camus et le travail de Char aussi, parce que tout a été compromis pendant l'occupation, et puis aussi les discours collectifs qui vont se créer après la résistance. Et très vite, Albert Camus va s'opposer à ce que vous appelez le résistentialisme et s'attirer d'abord la suspicion, puis franchement l'hostilité de pratiquement tout le monde.
Quand il prend la direction de combat, il a d'abord participé à combats clandestins à partir de 44, enfin de 43, fin 43. Et à partir de 44, il fait tous les éditoriaux. Il y a énormément d'éditoriaux sur la presse et sur la nécessité, pas simplement de retrouver des mots, mais de refonder, il dit, un dictionnaire, de refonder un langage, parce qu'il dit qu'un pays se définit par son langage et que justement parce que tout était mensonge, il faut refaire complètement. On a prostitué les mots et il faut donc les réinventer une langue. C'est le rôle de la presse, dit-il, et hélas, il ne tardera pas à s'apercevoir que la presse de l'après-libération ne suit pas le mouvement et trahit plutôt toutes les aspirations de la résistance. Mais dans Combat, ce travail sur le langage et sur la vérité est absolument central dans ces textes, dans les textes de Camus.
Vincent Duclair.
Oui, en tant qu'écrivain, Albert Camus a très vite compris que le nazisme et le collaborationnisme avaient perverti la langue. Hein, et lui-même donc s'est employé toujours à redonner une définition des choses. Bon, cette fameuse citation, hein, « mal nommer les choses ajoute au malheur du monde hein, ». Et il... Et de ce point de vue-là, il est effectivement très très soucieux de dénommer, de décrire. Et moi, je suis frappé par la qualité littéraire et la qualité de précision, notamment des carnets. Hein. J'invite vraiment les auditeurs à lire ou relire les carnets d'Albert Camus, qui sont très très bien disponibles en collection Folio. Et dans ces carnets, on voit bien effectivement comment est-ce que une seule phrase peut faire surgir un monde d'émotions et un monde de réflexion. Et au fond, on le voit à travers, pour revenir à la guerre, à l'expérience de la résistance, comment est-ce que René Char, qu'il rencontre après la guerre, hein, les deux hommes se comprennent à travers cette expérience de la résistance et la nécessité de lui conserver une sorte d'authenticité. Il y a une scène assez forte hein, qui est décrite à la fois par Char, enfin, surtout par Char et un peu par Albert Camus, lorsque il rencontre véritablement pour la première fois Albert Camus dans un hôtel d'Avignon, hein, c'est en 1947, et René Char a choisi d'associer à cette rencontre quelques-uns de ses compagnons donc de résistance, lui, capitaine Alexandre dans la Durance, et au fond Char constate après que il y a eu une entente, hein, une fraternité entre ces combattants, alors même qu'ils ne se connaissaient pas parce qu'ils parlaient la même langue.
Alors il y a dans cette obsession du langage, la phrase exacte, hein, c'est la critique du langage ne peut éluder ce fait que nos paroles nous engagent et que nous devons leur être fidèles. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde.
Merci de l'avoir redonné parce qu'elle est souvent,
mal citée.
Merci beaucoup.
Tant qu'à faire. Il dit aussi le fameux discours du Nobel en 57, chaque génération sans doute se croit avouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Et dans le même discours, il parle d'un monde menacé de désintégration, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'expérience de la guerre, c'est aussi le monde dans lequel cette génération naît, c'est-à-dire le monde du souvenir des camps de la mort, le monde d'Hiroshima et la guerre froide qui découle de là, c'est-à-dire le monde où l'histoire montre toute sa démesure et où le langage se trouve impuissant à décrire ce qui se passe. Et de ce point de vue, Camus s'inscrit, il me semble, dans une génération. Orwell écrit 1984, je crois, en 49, si mes souvenirs sont bons. Beckett en attendant Godot, 48. Il y a le souvenir d'Hemingway, il y a Malraux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une véritable interrogation sur comment appréhender le monde et quoi faire dans un monde qui est devenu impensable.
Je voudrais, par rapport à ce que vous avez dit au début là, donner une phrase de Combat, de Camus dans Combat, en 6 octobre 44. Pour nous maintenant, il n'y a qu'une guerre qui est celle de la vérité.
Voilà.
Et c'est une guerre. Parce qu'effectivement, il y a, non pas un laisser-aller du mensonge, mais il y a une volonté de mensonge, pour des raisons idéologiques, pour des raisons d'intérêt. Et donc, c'est véritablement une guerre à mener. Et il me semble qu'il faut remonter aussi à ce qu'il publie en 45, Lettre à un ami allemand, où il montre bien que ce sont les mots, hein, vous l'avez dit Vincent Duclair, les mots que le nazisme a pervertis. Il faut absolument tout reprendre. Et je tenais à parler ici des Lettres à un ami allemand, parce que je crois que c'est un texte absolument capital pour comprendre l'engagement de Camus. En plus, c'est un texte magnifique, vous l'avez dit.
Vincent Duclair.
Oui, vous parlez de monde impensable. Effectivement, Camus a assumé, je veux dire, l'immense injustice et désordre du monde. Et toutes les déceptions liées à la libération qui ne tient pas ses promesses. Hein. Et finalement, la grande question, c'est de savoir sur quelle valeur fonder la pensée de l'impensable. Quoi.
C'est... Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'avec Hiroshima, on est rentré dans l'impensable, avec le souvenir des camps, enfin la révélation de la dimension des camps de la mort, on rentre aussi dans l'impensable. Et c'est les deux bornes existentielles qui vont fonder l'époque, dans l'héritage de laquelle on vit toujours d'ailleurs. Et les écrivains de cette génération, Camus en premier lieu, vont essayer vont aller à la conquête de cet impensable en essayant en s'arc-boutant au mot. Certainement, évitant l'idéologie.
Oui, alors justement, sur quelle valeur fonder la pensée de l'impensable, je crois que c'est revenir au fond sur des valeurs politiques d'abord qui appartiennent à l'Europe en totalité, hein, c'est-à-dire notamment la liberté. Ce Camus est très européen, ça renvoie aussi à ces grands discours notamment d'Edmond Husserl à Prague et à Vienne avant la Seconde Guerre mondiale contre le nazisme. Moi, je verrais une deuxième valeur qui est celle véritablement de la culture partagée. Et c'est pour ça que Camus est un grand homme de théâtre. Hein, ça, oui. Agnès Piquel le sait bien. Et puis, au-delà de ça, c'est l'expérience collective qui, au fond, permet, et je crois que c'est très important, d'écrire des récits. Parce que la force de Camus, c'est finalement de transmettre ses valeurs de liberté au fond, de manière très classique. Hein, on peut rattacher, que ce soit... Jaurès et Léa Lévy, par exemple, mais aussi de les incarner dans des récits, que ce soit des récits effectivement liés à la description des lieux, en particulier à Alger, mais aussi ces récits comme La Peste, qui sont des récits de résistance. Et donc, il incarne les valeurs et il les transmet de ce point de vue-là.
Mais est-ce que c'est pas ce que Camus, et peut-être même cette génération-là, a une des choses, en tout cas, que Camus a nous transmettre aujourd'hui, qui nous parle le plus aujourd'hui, c'est ce rapport du langage à un monde qu'on n'arrive plus du tout à penser?
Alors, je voudrais revenir sur ce terme d'impensable, parce que, à propos d'Hiroshima, il prononce le terme de barbarie.
Oui.
Et je tiens à ce qu'il soit prononcé ici, parce que Camus, quand il dit barbarie, il s'oppose bien évidemment à tous les discours sur la civilisation, en particulier la civilisation la France aurait exportée dans ses colonies. Donc je crois que ça, c'est très très important. La deuxième chose importante, c'est, je voudrais revenir sur la notion de valeur. Vous avez tout à fait raison, c'est fondé sur des valeurs. Mais ces valeurs ne sont pas là pour définir un sens. C'est-à-dire que l'absurde subsiste et que les valeurs ne sont pas contradictoire avec l'absurde. Il n'y a pas de transcendance qui soutienne ces valeurs, mais ces valeurs sont soutenues par une conception de l'homme, et c'est tout à fait capital. Vous avez dit aussi, et c'est tout à fait juste, j'apporterai un complément à les liens européens. On y reviendra sûrement, Camus est un grand européen. Mais un des moteurs pour lui, ce sont les contacts horizontaux entre intellectuels, par le regard, mais aussi entre intellectuels. Et il lance, juste après la guerre, dans les années 46-47, les groupes de liaison internationale. Et pour lui, c'est capital. Vous avez cité quelques grands auteurs, mais il y en a d'autres moins connus, avec lesquels Camus a noué des relations, parce que l'Europe se fera par ces relations horizontales. Entre intellectuels, mais aussi entre gens de bonne volonté. Et sûrement pas par l'économie, comme ça se fera, hélas.
Cette idée que l'absurde n'empêche pas les valeurs, c'est une idée effectivement fondamentale. C'est-à-dire qu'on peut constater que le monde est absurde et maintenir des valeurs. On trouve ça déjà chez Kafka, un peu, d'une certaine façon. Alors que chez les intellectuels plus investis politiquement, plus idéologues, il faut choisir. Soit le monde a un sens, soit il n'en a pas.
Ça, c'en est clair. Oui, ce qui est frappant chez Camus, c'est sa très grande lucidité. Et cette lucidité qui le mène quand même aussi, il faut le rappeler, à des moments de grande dépression, oui. Qui sont à des moments de doute profond. Hein. C'est pour ça que Camus est intéressant, parce que c'est pas effectivement une sorte de surhumain intellectuel et moral. C'est qu'effectivement, il a toutes ses fragilités, parfois ses erreurs, mais il assume effectivement cette position d'extrême lucidité. Et cette lucidité ne le place pas dans l'impuissance, mais au contraire, le mobilise pour sur des combats qui sont des combats particuliers avec une dimension universelle. On prendrait que ça soit effectivement la Hongrie 1956 ou sa fidélité à l'Espagne républicaine, hein, et ça définit très bien l'Europe de Camus précisément. C'est aussi une Europe, bien sûr, des valeurs politiques, de liberté, mais c'est aussi une Europe, vous l'avez très bien parlé, de cette culture partagée avec des grands auteurs qui s'échangent, les traductions. Camus est quelqu'un qui pense effectivement l'espace culturel européen. Mmh, mmh.
De ce point de vue-là, je voudrais conseiller la toute récente publication de la correspondance de Camus avec Caromonte, cet intellectuel italien. Elle est passionnante sur tout ce que nous sommes en train de dire et je ne saurais trop la conseiller. Effectivement, le sens, quand on cherche un sens, on divinise ce qui est censé donner du sens. On en fait un absolu et du coup ça devient mortifère. Et c'est très très important de bien distinguer effectivement la valeur et le sens. Le monde n'a pas de sens et quand on lui en donne un, que ce soit l'histoire, que ce soit le peuple, que ce soit Dieu, on risque toujours d'en faire un absolu au nom duquel on coupe les têtes.
Ô vie heureuse des bourgeois, qu'avril bourgeonne, ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents, ce pigeon est aimé, 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette genoise en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et je fais mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honte. Elle n'eut de souhaits impossibles. Elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie. Toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec, il n'eut jamais envie de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
Alors, Albert Camus, avec Agnès Piquel et Vincent Duclerc, on parlait de cette nécessité de conserver à la fois la conscience de l'absurdité du monde et la conscience des valeurs nécessaires. Tout ça va et donc de s'inscrire dans l'histoire, mais contre l'histoire et non pas avec l'histoire. Et c'est cette grande contradiction, c'est cette position qui va générer le grand conflit avec l'apparition de D'Hommes révoltés contre Sartre, contre la gauche en fait, en 52. Qui veut y aller, Vincent Duclerc?
Allez-y. Oui, alors, c'est certain que l'homme révolté, pour Camus, avait comme but de fixer fond, cette réflexion qui est nourrie par son expérience de la nécessité de donner, au fond, une possibilité à l'engagement humain, aux individus d'exister et de refuser aussi ces engrenages tyranniques, hein, parce que c'est bien effectivement le XXe siècle qui est en cause là. Alors c'est certain que cet ouvrage est a des faiblesses, à la fois, bon, il y a été reproché de ne pas aller aux sources directes, etc. En même temps, moi, en ayant relu effectivement L'Homme révolté pour le livre que vous avez mentionné, j'y ai trouvé effectivement deux choses extrêmement importantes. Hein. D'une part, ce souci de penser précisément, la réponse au matérialisme historique et travaillant, vous l'avez cité, sur Jean Jaurès, moi j'ai retrouvé finalement beaucoup de la thèse de Jean Jaurès dans le travail d'Albert Camus pour essayer effectivement de fixer un idéalisme qui serait raisonnable et mesuré précisément. Et c'est tout le travail de Jaurès et que ensuite, d'une certaine manière, Camus mène dans L'Homme révolté. Et le deuxième point, c'est d'avoir donné du sens à ce terme de révolte. Alors c'est vrai que l'opposition révolte-révolution, elle n'a pas toujours été très très bien comprise. Hein. C'est-à-dire au fond, la révolte, c'est d'une certaine manière la bonne révolution, entre guillemets. Mais là où j'ai été effectivement très frappé, et ça renvoie effectivement à la démarche créative d'Albert Camus, c'est la manière dont il convoque les artistes pour essayer d'expliquer ce qu'est la révolte. Et là, et je l'ai dit au début de l'émission, il y a ces pages extraordinaires sur Marcel Proust, et ça m'a confirmé dans l'idée qu'au fond, le premier homme, pour finir, c'est, je vais dire, une sorte de temps retrouvé, mais le temps retrouvé des pauvres et le temps retrouvé des invisibles. Et là, Camus donne un signe d'espoir extrêmement fort, au fond, à ces invisibles qui n'ont jamais le droit à l'histoire et qui pourtant, je vais dire, existe dans l'humanité.
Oui, c'est que Camus est entre trois pôles. Hein. Il y a, on l'a dit, Il y a Hiroshima, il y a la mémoire des camps, il y a le colonialisme. Il y a une conscience universelle qui se fait jour hein, quand il voyage en Amérique latine et qui parle du sentiment insupportable de marcher vers une catastrophe inconnue qui détruira tout autour de moi et en moi. Il y a vraiment la sensation très présente à cette époque d'une terreur. C'est le début de la guerre froide, donc là les choses sont très tendues, et donc le monde n'a jamais été aussi absurde, et la nécessité de valeur ne s'est jamais fait autant sentir. Il faut maintenir ces deux termes, et il faut être, comme dit Joyce, l'histoire est un cauchemar dont il s'agit de s'éveiller, et en même temps il faut rester dans le cauchemar puisqu'il faut se battre. Et c'est là où la gauche va tomber, et Sartre en premier lieu vont tomber sur Camus. À bras raccourcis.
Oui, la révolution pervertit souvent ce qui avait donné naissance à la révolte. Et le critère de la non-perversion de la révolution, c'est ce qu'elle crée. Je me révolte, donc nous sommes. Est-ce que la révolte continue à créer de la communauté ou est-ce qu'elle sépare des leaders d'autres. Donc, il est évident qu'en écrivant des choses comme cela, Camus se désolidarise définitivement du communisme. Mais ça avait commencé avant l'homme révolté. Dans les années 47, 48, 49, il commence vraiment à prendre des distances très nettes avec Sartre et avec le Parti communiste. Et l'homme révolté vient donner... j'allais dire, vient orchestrer toute cette réflexion et aboutit à la réflexion sur la mesure. C'est-à-dire la révolte doit se donner ses propres mesures et on arrive à cette tension de la pensée de midi, c'est-à-dire on est toujours sur la crête d'un équilibre extrêmement fragile. Alors, il faut bien dire aussi, puisque on a parlé des gros débats, qu'il y a ce débat avant l'homme révolté autour du communisme, et il est bien évident qu'il s'agit aussi de la discussion sur la fin et les moyens, donc sur l'éthique en politique, et le débat sera relancé évidemment avec la guerre d'Algérie.
Avec l'Algérie, voilà. D'abord les goulags et puis la guerre d'Algérie. Mais alors, vous montrez très bien, Vincent Duclat, la violence des attaques contre Camus. Hein. À 60 ans d'écart, on peut se demander pourquoi 50 pages dans les temps modernes, c'est vécu comme une tragédie, alors qu'aujourd'hui, le moindre écrivain voudrait même une critique négative sur son livre. Mais en réalité, l'époque est aux idéologies, et l'époque est vraiment à l'excommunication, et Sartre mobilise tout le monde, l'intelligentsia du parti, les critiques de droite, et il y a vraiment un processus d'exclusion d'Albert Camus de Saint-Germain-des-Prés, et quand on se demande pourquoi, il faut bien voir le poids qu'avait le Parti communiste à l'époque, dans l'intelligentsia française, mais pourquoi il avait ce poids? C'est-à-dire que dans Les Mandarins, Simone de Beauvoir fait parler un personnage qui s'appelle Skriassin, qui est en fait Arthur Koestler, qui dit « les intellectuels français sont dans une impasse », phrase très célèbre, « ils ne savent plus à qui se vouer, leur art, leur civilisation, plus personne ne les écoutera, il va falloir choisir ». Et d'une certaine manière, l'adhésion au PC est une façon de se sauver comme intellectuel, beaucoup plus que simplement l'adhésion à une cause, non, Vincent Duclat?
Oui, alors, dans cette adhésion de l'essentiel des intellectuels de gauche donc au communisme, il y a aussi, bien sûr, vous l'avez rappelé, la guerre froide et la détestation de l'Amérique et de l'incapacité de séparer entre, finalement, le legs libéral des Américains et puis la politique qui est menée par les États-Unis à cette époque. Hein. Et donc, ce basculement dans le communisme, qui était aussi une manière quand même de faire oublier le peu d'entrain donc à la résistance d'un certain nombre de ces intellectuels. Hein. On sait que Aragon tenait, selon les propos de René Char, une blanchisserie. Hein, je veux dire à la Libération. Donc c'est des raisons effectivement assez objectives pour cela. Et l'intérêt, je crois, d'Albert Camus, c'est d'avoir refusé ses compromissions. Lui-même, qui avait bien connu ce qu'était le Parti communiste, à Alger en particulier, hein, et donc de poser les bases d'une vraie réflexion critique autour des idéologies, avec le prix qu'il a payé, qui est extrêmement lourd. Hein. Alors, c'est certain que, pour être très juste, Albert Camus a... aussi fait quelques provocations à l'égard de Jean-Paul Sartre ou à l'égard en fait de cette idéologie marxiste qui faisait tout sauf de véritablement défendre le prolétariat. Rappelons aussi qu'Albert Camus s'engage très fortement pour les ouvriers massacrés à Berlin-Est en 1953 et donc notamment dans sa préface à Louis Guillou, La Maison du Peuple, il est déjà effectivement très critique. Et puis donc il y a effectivement entre Sartre et Camus une rivalité. Sartre a bien vu que Camus apparaît comme aussi une figure d'intellectuel issu de la littérature qui menace au fond les grands standards, je dirais, des intellectuels français. Mais effectivement, l'excommunication est extrêmement dure et je crois que Albert Camus va en souffrir. Mais cette fragilité à laquelle il est renvoyé, même si ça l'amène à une vraie dépression, finira finalement par éclaircir encore davantage l'horizon de sa pensée, de sa littérature.
Est-ce qu'on n'est pas un peu là au cœur d'une certaine forme de perversité intellectuelle française, enfin, cette façon de se dresser au nom d'une prétendue bonne cause contre un seul homme, qui en fait incarne pas mal de choses de cette cause, mais pas avec les bons arguments?
Je voudrais peut-être défaire l'idée que c'est Sartre qui a mené oui. tout, ou manipulé tout le combat. Il y a eu plusieurs débats autour de l'homme révolté. Il y a eu ce qui a été orchestré par les temps modernes, et il semblerait quand même que Sartre, qui n'était pas là quand Janson a écrit tout son article, aurait aimé que cela ne soit pas aussi sanglant que ne l'a été le texte de Janson. Mais il y a eu aussi les surréalistes qui sont montés. Et oui. Ce n'est pas Sartre qui a manipulé. Il y a eu au moins 3 débats contre l'homme révolté. Et puis, il y a eu des soutiens. Et je veux dire qu'ensuite...
Georges Bataille, notamment.
Voilà. Je voudrais dire qu'ensuite, Camus fait une très très longue réflexion sur lui-même à travers la chute. La chute dont beaucoup ont dit que c'était un livre extrêmement sartrien, d'une certaine manière, et Sartre l'a admiré, et peut-être que les mots ont quelque chose à voir avec la démarche de la chute. Mais dans la chute, si il épingle à travers le juge pénitent qu'est le personnage de Clamence, les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés, c'est aussi lui qu'il remet en cause. Mmh. Et il liquide toutes ces années-là pour, j'allais dire, faire la place à sa véritable œuvre, ce qu'il a à écrire, c'est-à-dire Le Premier Homme. Comme s'il s'était laissé emporter dans ce débat, loin de ce qui lui semble être
l'essentiel.
L'essentiel pour lui.
Tout à fait. Alors on va finir cette émission, ça passe très très vite. Hein. Je voudrais finir sur une citation de Mohamed Dib, l'écrivain algérien. Camus est arrivé dans un monde en ruine, au goût de cendre et de soleil, où l'homme n'est même plus un survivant, mais l'ombre déjà de l'homme d'Hiroshima. Et d'un bout à l'autre, son œuvre a refusé d'apporter la moindre atténuation à ce sentiment. Il a néanmoins gardé les valeurs dans un monde en ruine. Il a résisté, on peut le dire.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often, lost my husband and my children, but I have many friends, and some of them are with me. And a woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then those soldiers came. She died without a whisper.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Céline Leclerc, avec à la technique Olivier Arnay et à la réalisation Véronique Villa.